Vous savez, il y a quelques années, en fait, j'ai entendu cette phrase pour la première fois qui disait « L'Église locale est l'espoir du monde. » L'Église locale est l'espoir du monde. Et du coup, j'ai entendu cette affirmation, ça m'a beaucoup troublé, ça m'a amené à deux réflexions. Je me suis déjà dit « Bon, il parle sans doute pas de mon Église à moi. » Éventuellement, vous savez, l'Église universelle, celle qui se réunit partout dans le monde, vous savez, c'est un peu abstrait, les gens qui croient en Dieu, mais nous, on ne sait pas, en fait. C'est difficile de saisir cette réalité. Et vous savez, dans mon Église, on se retrouvait pour chanter. Après, pendant la prédication, on essayait de lutter contre le sommeil, surtout quand c'était le prédicateur apprenti qui s'y essayait. À la fin du culte, on discutait un peu ensemble. C'était un bon moment. Puis après, on se disait, bon, à la semaine prochaine. Ma deuxième réflexion était, il vit sans doute pas sur le même continent que moi. Moi, je vis en France. Il y a presque 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Sur ces 9 millions, il y en a 2 millions qui travaillent et pourtant sont considérés comme pauvres. Rien qu'en Seine-et-Marne, j'ai fait la recherche, 11% des personnes vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire quasiment une personne sur 10. 37 000 personnes se prostituent en Seine-et-Marne. Près de 1 000 personnes sont en situation de prostitution et beaucoup à proximité immédiate de notre église. Tous les jours, 25 suicides, 500 tentatives de suicide, pour des raisons assez diverses, mais beaucoup la solitude, la dépression, la maladie, des problèmes de couple, des problèmes de famille. Mais par exemple, autour de nous, il y a à peu près 30% des personnes qui souffrent de solitude. On en a encore reparlé dimanche dernier. C'est vraiment un fléau qui, comme on peut le voir, conduit même à la mort. Pour répondre rien qu'aux besoins immédiats de notre région, on va dire à quelques dizaines de kilomètres autour, il faudrait des moyens vraiment titanesques. Rien que les différents types de problèmes, c'est plein de solutions différentes à mettre en œuvre. Alors, comment l'Église locale peut-elle être l'espoir du monde dans cette situation-là? Et je vous propose, pour un peu réfléchir à cela, de voir qu'est-ce qu'un leader reconnu et inspiré par Dieu a transmis à une église qui vivait finalement dans un environnement qui était assez similaire. Dans cette église, autour d'eux, dans cette ville, il y avait l'exploitation humaine, il y avait une population qui cherchait de la consolation, leur raison d'être dans les plaisirs instantanés, le sexe, les beuveries, les soirées libertines. Et ils placent aussi leurs espoirs dans des pratiques occultes. Peut-être aujourd'hui, on connaît l'horoscope, les médiums, les guérisseurs. Mais par exemple, à Morée, la dernière fois qu'on était à la salle à Morée, juste à côté, il y avait une affiche qui disait comme quoi on pouvait être en relation avec des défunts et vivre une sorte d'amour en étant mis en relation avec eux. C'est occulte. Autour de nous, il y a plus de 300 personnes qui vivent de ces pratiques occultes. Il y a tout un business. Il n'y a pas de médecin, mais par contre, si vous cherchez un médium ou un magnétiseur, vous en trouvez un facilement ici. C'est ici que nous vivons. Et en résumé, cette population, elle cherche la réussite personnelle. Elle cherche l'honneur par le mérite. Elle recherche l'argent. Elle recherche le plaisir. 2000 ans, une autre civilisation à Corinthe. Mais finalement, quelle différence y a-t-il avec nous aujourd'hui? Et je vous propose de réfléchir dans ce sens-là. Unis en Christ, proclamons la puissance pour la gloire de Dieu. Unis en Christ, proclamons la puissance de la croix pour la gloire de Dieu. Et je vous propose de nous laisser interpeller par trois appels de Dieu pour notre Église et pour nous personnellement. Vivez en communion. Proclamez le message de la croix. Rendez gloire à Dieu. Et on va lire ce texte au fur et à mesure qui se trouve dans 1 Corinthiens 1 et à partir du verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis, dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y avait des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme « Moi, je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. » Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que j'ai baptisé en mon nom. J'ai baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Je propose d'incliner nos têtes et de prier. Oui, Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que ce matin, tu illumines les yeux de nos cœurs, qu'on puisse vraiment être sensible à ce que tu veux nous dire ce matin, qu'on puisse répondre à cet appel que tu nous lances d'être en communion avec toi, d'être en communion avec les frères et sœurs, de proclamer ton message et en tout te rendre gloire. C'est ma prière. Je te prie, s'il te plaît, que tu ne nous laisses pas insensibles ce matin. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Vivez en communion. Vivre en communion avec qui et comment? Et Paul commence comme ça, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé, à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et premièrement, nous sommes appelés à cultiver notre relation avec Jésus-Christ, la mettre à la première place dans nos vies, l'intégrer aussi, Jésus, pas seulement en tant qu'icône, en quelque sorte, mais en tant que personne, pleinement dans notre quotidien. Est-ce que j'ai une relation de personne à personne avec Jésus? Prendre aussi son enseignement comme clé de lecture pour nos choix de vie et pas seulement une sorte d'inspiration pour vivre bien. Mais est-ce que ce que Jésus dit, est-ce que ça change mon quotidien? Est-ce que je prends ça au sérieux? Et Jésus, par exemple, une des paroles qui est très connue, qu'il a dit, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Paul dit qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit, dans la même pensée. À la lecture de ce texte, je comprends qu'en fait, peut-être les divisions ne sont pas encore vraiment manifestes. C'est peut-être pas encore la guérilla dans cette église, mais il y a des accros, il y a des fissures, des obstacles qui apparaissent, en fait, sous fond de rivalité, peut-être même de manque d'intérêt pour certaines personnes qui sont parfois un peu moins aimables. Et cette église est relativement grande, extrêmement hétérogène sur bien des domaines. Ben, tout d'abord, la mixité sociale. Dans cette église, il y a des notables, des personnes qui sont extrêmement bien vues, puissantes, riches, et il y a des esclaves. Ils ne s'appartiennent même pas eux-mêmes. Il y a des cultures de tous les horizons parce que c'est un grand carrefour commercial. Mais aussi, beaucoup de personnes ont un passé chargé avec tout ce qu'on a dit avant, avec l'occultisme, avec la prostitution, plein de choses comme ça. Et chacun doit aussi avoir des thématiques un peu favorites, comme dans toutes les églises, des orateurs favoris, des leaders favoris. Et j'imagine en fait un peu les réunions qu'il a pu y avoir dans ces églises-là. Alors j'imagine déjà Paul, le rabbin. Imaginez-le, les yeux pétillants, en train de dérouler les rouleaux de la loi devant les yeux de tous. Et puis là, il commence à enseigner les mystères du plan de Dieu à travers toute la Bible, à travers l'Ancien Testament, et tout culmine vers Jésus. Tout le monde est scotché. Dieu a déjà dit tout ça et ça s'est accompli en Jésus. Waouh! Et puis il y a Apollos. C'est un orateur hors pair. Il sait captiver les foules. Il sait faire vibrer par son éloquence. Il proclame l'évangile avec des arguments fracassants. En sortant, il n'y a plus aucun doute sur le fait que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Et puis il y a Pierre. Pierre, c'est le compagnon de route de Jésus. C'est peut-être avec lui aussi qu'il a pu faire des feux de bois, faire des chamallows sur le feu de bois. Et il y a toute une histoire personnelle entre eux. Et peut-être il leur raconte ça comme ça. J'ai trahi Jésus. Mais vous savez quoi? Lui, au moment où je pensais que tout était perdu, Il m'attendait au bord du lac avec un barbecue. Et là, il m'a pris à part, il m'a posé la main sur mon épaule et m'a dit « Pierre, m'aimes-tu ?» Ah, ça devait être fort hein, avec Paul, Apollos, Pierre. Moi, j'aurais aimé y être. Et vous ? Ah. Voir et entendre chacun enseigner les richesses du message de Dieu avec les dons que Dieu lui a confiés. Et Dieu a pourvu, on vient de le voir, avec d'excellents serviteurs, de grandes connaissances bibliques, des moyens. Imaginez Paul lui-même qui fonde l'école biblique de Corinthe. Génial. Un lieu de passage mondial, un peu l'équivalent de New York. Imaginez à Morée maintenant toutes les nations qui passent parce que c'est le lieu hype. Imaginez des bâtiments somptueux parce qu'il y avait des personnes extrêmement riches. Pas de problème de place. De l'argent, on a un projet, ok, on y va. Sans doute de la visibilité, de la notoriété publique et même, ce qui est dit au début de l'épître, abondance de dons spirituels. Il y avait des personnes qui étaient douées dans la musique, la technique, le fait de pouvoir parler à quelqu'un de manière très précise de qu'est-ce que Dieu veut pour lui. Tout ça, il l'avait. Toutefois, ce qu'on peut voir, c'est que ça ne les a pas vraiment rapprochés au final, hein. Peut-être même que ça les a conduits dans des tendances inverses avec justement ces questions de rivalité. Avoir un plus grand bâtiment, avoir plus de moyens financiers. Peut-être un jour, même dans notre église, une structure pour former des serviteurs de Dieu. Tout ça, c'est utile, c'est nécessaire, c'est notre rêve, on y croit tous. On veut mener des projets ambitieux et avoir de l'impact dans la région. Et je pense que là, pour ça, on est tous d'accord. Mais mes amis, cela ne résoudra pas nos difficultés spirituelles, notre relation avec Dieu qui peut être mouvementée ou notre relation avec les autres membres de l'Église. Cela ne fera pas de nous une Église plus mature, une Église plus proche du modèle que Jésus veut pour nous. Vous savez, parfois, on est un peu comme dans cette situation-là, dans notre façon de vivre la communion fraternelle. On a des mains et on se serre tous la main comme ça, mais au final, on peut se rendre compte que parfois, c'est un peu partiel dans la relation. Parfois, on garde une mitaine, donc on garde le bout des doigts, mais la main, elle nous appartient. Hein. Certains, en fait, on peut même garder en fait, nos gants, se mettre en position de sécurité. Et vous savez, dans les mouvements politiques, c'est un peu pareil, en fait, surtout quand les élections se rapprochent. C'est qu'au début, on veut se distinguer un peu, et finalement, on finit par quitter le mouvement et créer un mouvement contre le mouvement. Et Paul, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il dit ? « Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. » Vous savez ce qu'a dit Paul tout au début de notre passage ? Dieu est fidèle. Et c'est à ça qu'on peut se raccrocher quand on voit que peut-être il y a des choses qui ne marchent pas comme on veut. Dieu est fidèle. Combien de fois avons-nous commencé nos prières par « Dieu est fidèle » ? Et Paul, il continue et il dit « Je n'ai baptisé personne en mon nom. » Et c'est essentiel. Et cela nous rappelle quelques vérités essentielles sur le baptême. Lorsque nous nous donnons à Christ, nous acceptons de mourir avec Christ et de ressusciter avec Christ. C'est pour ça que quand on baptise, on dit « dans la mort et dans la résurrection de Christ ». Dieu ne nous voit pas, ne nous voit plus comme une personne en rébellion envers lui, mais il nous voit comme il voit Christ lui-même, quelqu'un de pur, de saint, en relation avec lui. Et c'est pour manifester publiquement cette situation que nous nous faisons baptiser, que nous le demandons. Nous nous faisons baptiser en Jésus, pour Jésus, par Jésus, pour être comme Jésus. Mais ce n'est pas pour être comme l'Église, comme une dénomination ou comme le pasteur. Tout est pour Jésus. Est-ce qu'on s'assimile à Jésus ou est-ce qu'on s'assimile à une Église, une dénomination ou à une personne qui nous encourage dans l'Église ? En résumé, si nous sommes en communion avec Christ, nous sommes immanquablement en communion avec l'Église, car le corps du Christ, c'est l'Église. Et ce qui est important, on l'a peut-être déjà dit plusieurs fois, mais c'est tellement important. Jésus ne nous appartient pas. Nous appartenons à Jésus. L'Église ne nous appartient pas. Nous appartenons à l'Église. Et vous savez, dans ce texte qu'on a déjà lu plusieurs fois ces derniers temps, dans Acte 2, il est dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Ça paraît simple comme ça, et pourtant ça produit des fruits qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer, parce qu'on en parle encore aujourd'hui. Et pourtant, ça se base sur de la persévérance. Ce n'est pas facile, mais on persévère dans ce que Jésus nous demande. Et ce matin, je nous invite vraiment à répondre chacun individuellement à ce premier appel. Vivons en communion avec Jésus. Vivons en communion avec les membres de l'Église. Ne mettons ni gants, ni mitaines, ni peut-être de gants chirurgicaux. Ça donne l'impression, c'est transparent, hein, mais sur le fond, on n'est pas en contact. Ne laissons pas des rivalités, de mauvaises relations être un obstacle à l'œuvre de Dieu dans notre Église et dans notre région. Et on va lire la suite, donc les versets 17 à 24. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants au travers de la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux, les Grecs recherchent la sagesse. Or nous, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. Et là, Paul, notre coach, nous explique l'importance d'investir de l'énergie à entretenir notre relation personnelle avec Jésus, conserver l'unité de l'Église, entretenir la communion, parce que Jésus dit « Je bâtis mon Église » et il est fidèle en cela. Nous pouvons compter sur Jésus pour cela. Et nous allons voir ensemble, finalement, son but, son moyen, sa stratégie et sa cible. Tout d'abord, son but. Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Paul dit, je ne suis pas venu pour baptiser. Bon, après, je me suis dit théologiquement, peut-être que Paul n'était pas de dénomination baptiste. C'est pour ça qu'il dit ça. C'était une blague. C'est pas ça. Ne retenez pas ça. Non, ce que Paul dit, en fait, il ne veut pas du tout limiter l'importance du baptême. Cependant, il nous appelle justement à saisir l'importance de notre engagement. Premièrement, le baptême, ce n'est pas du tout la fin du cheminement, mais c'est le marqueur d'une nouvelle vie avec Jésus. Une vie de disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui choisit Jésus comme son modèle, comme son sauveur et comme la personne qui veut suivre et obéir. Et ça, c'est sans cesse rafraîchi parce que Jésus nous révèle à chaque fois d'autres domaines de nos vies où il nous appelle à lui ressembler davantage. Pour être plus pertinent grâce à ce qu'on découvre dans la Bible et ce que le Saint-Esprit nous révèle. Il nous convainc que ce domaine-là, il ne correspond pas à ce que Dieu veut pour nous, par exemple. Deuxièmement, il y a ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ça, c'est que finalement, il n'y a que deux trajectoires de vie. Il y a la trajectoire qui conduit au précipice, ici, et il y a la trajectoire qui conduit à la maison du Père. Et ici, c'est la mort spirituelle, c'est une éternité loin de Dieu, la souffrance. Et à votre avis, où est-ce qu'on arrive quand on est? On est de quel côté? De ce côté? On est de ce côté? Oui, tous les hommes naissent de ce côté-là. Et après, c'est un peu comme un escalator ou un tapis roulant, vous savez. C'est que on est mécaniquement tous précipités par ici, sur la falaise, et là, c'est la mort. C'est triste, c'est dur de se l'avouer, mais c'est ça la trajectoire de toute l'humanité. Et on est tous ici. C'est pas le monde qui fait qu'on devient mauvais, on est mauvais dès le début, parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous détruit, qui s'appelle le péché. C'est quelque chose qui nous amène irrémédiablement en fait, à nous projeter vers cette falaise. Mais il y a une bonne nouvelle, il y a une nouvelle voie qui s'est dessinée, et cette nouvelle voie, elle est ici. Il y a un chemin qu'on est appelé à passer pour prendre la direction de la maison de Dieu. Et ce chemin, c'est la croix de Jésus. Et c'est là, c'est chacun personnellement qui peut faire prendre cette décision de dire « Moi, je veux cette vie meilleure auprès de Dieu. Je veux passer par la croix. Je veux passer par ce chemin que Jésus il a tracé pour moi. » C'est une vie dans l'éternité qui est comblée de la présence de Dieu, dans la joie, dans la paix, dans sa consolation. Et vous savez, notre chemin ici-bas, en fait, il n'est que parsemé par le deuil, la souffrance, les combats. Cependant, nous avons une perspective qui est complètement différente, qui est extraordinaire, qui est indescriptiblement merveilleuse. Et c'est la maison du Père. Dieu nous attend ici, mes amis. C'est peut-être l'occasion pour certains d'entre nous de prendre cette décision ou de se rappeler que c'est ça ma destination. C'est là où je veux aller. Et la souffrance, la mort, tous ceux qu'on traverse ici, c'est un panneau indicateur qui nous rappelle que ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Parce qu'on le sait, aucun homme sur cette terre ne dira ben, « moi, c'est normal que je vive la souffrance ». On a tous une rébellion par rapport à ça. C'est parce que Dieu nous a donné ça pour nous rappeler qu'il y a quelque chose de mieux pour nous. Et son moyen, c'est la croix. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Le message de la croix doit être annoncé simplement, entièrement, sans détour, sans manipulation ni édulcorant. On n'a pas besoin de rajouter du sucre pour que ça ait l'air plus appétissant. C'est le chemin de la vie, c'est le chemin de la mort. Non, nous ne voulons pas présenter un courant de pensée, mais nous présentons un événement qui est inscrit dans le temps et dans l'espace, et ça s'appelle l'histoire. Jésus a vécu, et il a vécu cela pour nous. Il ne porte pas un message philosophique, ni même une source d'émotion, mais il est la puissance de Dieu. Et quel est ce message ? C'est dans Philippiens qu'on retrouve ça au chapitre 2. Lui, qui de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin préservé, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mes amis, Dieu vient à notre rencontre. Il vient de manière parfaite, sans rien à se reprocher, pour s'offrir à la croix, cloué, pour mourir la mort qui était la plus humiliante de ce temps, destinée au pire des hommes, ceux que l'on ne souhaiterait surtout pas fréquenter, même pas croiser dans la rue. On peut se dire, mais c'est tellement bizarre comme message, mais mes amis, un pays sans justice, ça s'appelle une anarchie. Quelqu'un devait payer le prix de la désobéissance des hommes. Et Jésus a accepté de prendre ma place, ta place. Il a accepté de vivre pour moi la punition de mes fautes. C'est comme s'il s'était mis lui-même comme un bouclier entre moi et la colère de Dieu, pour subir de plein fouet toute la colère de Dieu qui m'était destinée à moi. Personne d'autre à part Jésus n'aurait pu monter sur la croix, parce que personne d'autre à part Jésus n'a pas commis de péché, n'est pas rebelle à Dieu. Et toute la colère de Dieu est légitime, juste et nécessaire. Et quelqu'un devait la subir, et c'était Jésus. Et comme on l'a dit, nous sommes tous nés du mauvais côté de la barrière. Donc on ne pouvait pas nous-mêmes venir sur ce chemin-là. Mais le message de la croix, lui, nous parle d'humiliation, de mort, mais aussi de résurrection, de victoire et de gloire. Et ce matin, si vous n'avez pas encore pris cette décision, je vous invite à prendre ce chemin qui nous parle de victoire, de gloire et de la présence de Dieu. Sa stratégie, elle est perturbante, n'est-ce pas ? Nous qui apprécions tellement la culture du mérite, dans nos films ou dans nos, où les politiciens, on cherche tellement des sauveurs. Vous savez, on aime bien Bruce Willis, il sauve le monde en donnant la bonne tirade qui est bien cinglante. Mais en tant que chrétiens, nous luttons aussi contre la religiosité basée sur nos mérites spirituels. Vous savez, je pense qu'on a chacun déjà lutté contre cela. On a fait un peu, vous savez, les aviateurs, on les voit souvent dans les films de la Deuxième Guerre mondiale. Quand ils abattent un autre avion, ils rajoutent un avion sur leur carlingue. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on ne fait pas parfois un peu pareil ? Limite, on accrocherait des petits poissons sur notre portière à chaque fois qu'on a pu avoir un contact intéressant avec un voisin ou que quelqu'un s'est converti ou peut-être parce qu'on a lu un livre qui était plus gros que d'habitude ou sur le nombre d'heures de prière ou peut-être ces récits où un collègue nous a tellement admirés par rapport à notre comportement ou notre érudition biblique à connaître plein de choses. Combien de fois est-ce qu'on est tombé dans ce piège de l'autoflatterie, mes amis ? Espérant mériter quelque chose de plus de Dieu ou peut-être simplement l'honneur des personnes qui sont autour de nous ? Combien de fois nous sommes-nous flattés de nos familles, de nos connaissances bien placées, plus intelligentes, qui ont réussi dans la vie ? Et de même dans l'Église, est-ce que nous donnons le même respect, le même crédit, la même attention à quelqu'un qui a un doctorat et qui a un bon travail que quelqu'un qui est peut-être moins diplômé et qui est ouvrier ? Nous avons tellement de difficultés à nous émerveiller de la création pour chercher Dieu. Et les grands discoureurs savent tellement bien dire « le hasard fait bien les choses ». Et vous savez, moi j'aime beaucoup les sites de vulgarisation scientifique, donc je regarde par exemple Futura Science, ce genre de choses. Et dans mon ancien travail, en fait, avec des informaticiens, en fait, il y avait souvent des discussions un peu théoriques sur des éléments physiques ou informatiques ou autres. Et par exemple, ça posait aucun problème de délucubrer, de dire, mais en fait, vous savez quoi ? Un éléphant, si on le lance suffisamment de fois contre un mur, au bout d'un moment, il va passer le mur sans casser le mur. Vous savez pourquoi ? Parce que tous les atomes se seraient bien positionnés entre l'éléphant, le mur et ainsi de suite. Et il passera à travers. Oui, pourquoi pas. On peut parler de ça, ça ne choquera personne, parce que finalement, ça fait partie de la physique et puis aussi des calculs statistiques, et ainsi de suite. Mais Dieu, en réponse aux élucubrations des érudits, répond par le message scandaleux de la croix. Est-ce qu'on a autant de courage de parler de la croix que de parler de cet éléphant qui peut traverser un mur ? Les Juifs attendaient le Messie depuis des siècles. Ils pensaient qu'il viendrait les libérer de la domination romaine, leur donner du pain en abondance. Bref, un gouvernement robuste, puissant, militairement, économiquement, financièrement, socialement. Ils attendaient des miracles. Et Jésus a guéri des malades, distribué du pain, il a fait plein de miracles. Mais il a tellement plus à profiter. Tellement plus à proposer. Et la sécurité dans ce monde est provisoire, mais la relation avec Jésus, elle est pérenne. Et en fait, ce message, c'est comme un électrochoc pour nous amener à sortir de nos faux raisonnements qui nous amènent à la mort. Nous ne voulons pas nous diriger vers les falaises. Et sa cible, Dieu donne ce message à tous ceux qui marchent sur le chemin de la mort. Il leur annonce le message qui est incroyablement puissant de la croix. Et pour cela, il nous utilise aussi. Et ton appel de disciple de Jésus-Christ est de proclamer le message puissant de la croix, de tout ton être, de toute ton Église, à tout ce que Dieu appelle. Ne nous laissons pas distraire par les apparences. Ne présentons pas un évangile au rabais, un évangile de la facilité. Mais présentons et vivons l'évangile de la puissance du sacrifice de Jésus, qui change les cœurs, les attitudes et nous donne une vie abondante avec Dieu. Dieu se sert de ceux qui semblent faibles pour faire de grandes choses. Et la volonté de Dieu, c'est qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alors proclamons le message de la croix. On va lire la dernière partie du texte, les versets 25 à 31. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont. Afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin que, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Tu te dis peut-être, je ne suis pas capable de faire ce job, moi non plus. Mon église n'est pas parfaite, celle que coachait Paul non plus, je vous rassure. Mais bonne nouvelle, c'est justement ainsi que la puissance de Dieu veut se manifester. Considérez, frères et sœurs, votre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, ni beaucoup, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Et vous savez, celle que coach Paul, en fait, c'est un peu l'équivalent de la ville de Calais, 8 fois plus grande, peuplée comme Lyon. Et cette église, elle est unie, malgré qu'elle soit composée finalement de membres du conseil municipal, de patrons de multinationales, d'ouvriers du port, ainsi qu'une majorité de clandestins de la jungle de Calais. Et cette église a beaucoup de difficultés de mœurs, de comportement, de fausses doctrines, et beaucoup de choses à mettre en règle, mais ils sont en marche. L'appel de Dieu est de se rassembler plus en plus en communion avec Jésus et entre eux. Pourquoi ? Afin que personne ne puisse faire le fier. C'est pour ça que Dieu utilise les choses faibles de ce monde. Jésus le dit, il n'y aura pas de tâches ni de rides sur l'Église au moment où il reviendra. Elle sera parfaite, pure, sainte, sans tâches, sans rides. Et c'est ce que nous voulons être, c'est ce que nous demandons à Dieu. Pour conclure, ce matin, je pense que ce message de la croix, dans ce texte, a vraiment le but d'être un électrochoc, par lequel Jésus nous amène à passer de la mort à la vie, une vie en relation avec Dieu. Et ce matin, si ce message te choque, c'est pour t'amener à la vie et t'interpeller. Et j'ai envie de te dire ça, peut-être ça fait des semaines, des mois que tu es en lutte avec l'un ou l'autre domaine qu'on a abordé, mais ne lutte pas avec Dieu. Laisse-toi faire par Dieu, il veut t'emmener à la lumière, te montrer le chemin de la vie. Ne reste pas seul non plus dans ce cheminement-là, c'est pour ça que dans l'Église, en fait, il y a les anciens, des responsables spirituels, il y a le pasteur. On est là pour cheminer ensemble et s'encourager, se fortifier, regarder ensemble qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Et oui, je le crois, l'Église locale et notre Église est l'espoir du monde. L'Église qui se laisse bâtir sur le fondement de Jésus peut vivre des choses extraordinaires. Prenons vraiment peut-être aujourd'hui ce temps pour méditer cela. Laissons-nous façonner par Dieu. Soyons une Église qui est selon le cœur de Dieu. Demandons peut-être à Dieu l'opportunité cette semaine de témoigner à quelqu'un de qui est Jésus. Mais prenons du temps surtout. Et je pense, moi le premier, j'ai besoin parfois de me confesser de ça, de prendre suffisamment de temps dans la prière, suffisamment de temps à pas juste lire la Bible, mais méditer. Qu'est-ce que ça change pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste de savoir des choses, c'est qu'est-ce que ça va transformer en moi. Et je vous propose qu'on puisse terminer dans la prière. Oui Seigneur, ce matin tu nous as parlé de bien des façons et je te prie s'il te plaît que chacun d'entre nous puisse sortir de ce lieu avec ce que tu as déposé sur son cœur. Ne nous laisse pas sortir comme nous sommes rentrés, mais vraiment travaille en profondeur nos cœurs et nos pensées. Permets-nous de te déposer ce qui est un fardeau pour nous, ce qui est une fatigue. Et permets-nous s'il te plaît de prendre vraiment ce nouveau démarrage avec toi, de vraiment nous rappeler que nous sommes sur le chemin de la vie, sur le chemin de la communion avec toi, sur le chemin de la communion avec nos frères et sœurs, Et je te prie, s'il te plaît, que dans tout ce que nous vivions, que ce soit d'abord pour ta gloire et non pour la nôtre. Je te demande pardon pour toutes les fois où, personnellement ou en tant qu'Église, on a pu voler une part de cette gloire qui t'appartient. Et on te prie, s'il te plaît, que toute la gloire te soit rendue, que notre Église te rende gloire, qu'elle soit un témoignage de qui tu es autour de nous. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.